Le rayon BD, Anne Simon nous emmène au pays Marilène.
For the benefit of Mr. Cat. Iced water.
Okay, man, let's go. Lights on.
Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe?
Et maintenant, végétaline, 100% végétale. Une huile qui ne reste pas sur les frites.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. Nous vous emmenons aujourd'hui en promenade dans un drôle de pays. Imaginez, vous êtes près du Palais Royal dans la capitale qui s'appelait Suffragette City du temps de la reine Aglaé, mais que le tyrannique Boris a rebaptisé Sabingrad. Si vous regardez du côté de la mer du désespoir, vous apercevrez peut-être à l'horizon l'île des Doukdouk. Si au contraire vous empruntez la grande route qui s'enfonce dans les terres et mène à la frontière avec la Tchétchénie, vous passerez près du cirque Kite, installé en bordure du champ des précipices. Puis en laissant sur votre gauche le village de Font-la-Bœuf, vous arriverez chez Damien, le crocodile cuisinier. Oui, parce qu'il y a un crocodile dans ce village, mais il y a aussi des chevaux, des chats, des serpents, et puis aussi un homme pierre, un enfant patate, une reine océanide et une armée de frites.
Ah, ma mère! Ces femmes, il me les faut toutes.
Quelles que soient leurs apparences, animales, végétales, minérales ou hybrides, les habitants de ce pays n'en sont pas moins des hommes ou des femmes. Et la vie des femmes est souvent bien difficile. C'est en particulier le cas pour deux jeunes filles qui survivent dans des conditions misérables. L'une, la cadette, est toute en longueur avec de longs cheveux clairs. Elle s'appelle Gousse. Sa sœur aînée, toute en rondeur, à l'épaisse chevelure noire, s'appelle Gigot. Et ce sont les aventures de Gousse et Gigot que nous narre le quatrième livre des contes du Marilène, tout récemment publié aux éditions Misma. Oui, car je ne l'avais pas dit, ce pays s'appelle le Marilène. Et sa créatrice, qui est notre invitée, s'appelle Anne Simon. Bonjour Anne Simon.
Bonjour.
J'ai commencé par un peu de géographie, ça va, j'ai pas fait d'erreur.
Ah, c'était très bien, très bien résumé, oui.
C'est un grand pays, le Marilène. Est-ce qu'il reste des territoires encore inconnus, des zones à découvrir?
Oui, il en reste beaucoup, notamment l'île des Doukdouk en fait que vous avez cité et qui fera l'objet d'un livre aussi, voilà, qui fait pas partie du pays Marilène en fait, qui est une île en bordure du pays et voilà, il va se passer des choses sur cette île.
Et sur la terre ferme, on connaît à peu près tout.
On connaît à peu près tout, mais il y a encore des bâtiments et des villages à découvrir. Là aussi, ça sera dans un. J'ai encore des choses à écrire. Oui.
J'ai commencé par de la géographie. J'aurais pu commencer par un peu d'histoire. Peut-être qu'il faut raconter un peu les grandes heures de ce pays. J'ai évoqué la reine Aglaé, son fils Boris, l'enfant patate. Mais avant ça, il y avait le tyran Van Krantz. Et avant Van Krantz, on ne sait pas.
Non, ça avant, on ne sait pas. Et même sur le règne du tyran, je ne l'ai pas encore vraiment développé. On sait quand même quelque chose sur lui, notamment que c'est un tyran et qu'il menait la vie très dure à son peuple et notamment aux femmes. Mais voilà.
De son harem.
De son harem, oui, parce qu'il est. En fait, ce tyran, il m'a été inspiré par Kadhafi. En fait, j'avais lu les proies de Annick Cogent qui m'avait vraiment marqué. Il est vraiment librement inspiré de lui. Et c'est vrai que fallait bien commencer par quelque part, donc je commence par le Van Krantz, qui sera renversé par Aglaé ensuite.
Donc, vous l'avez dit, il y aura des prochains tomes, l'histoire n'est pas terminée. Le tome 3, qui s'appelait Boris l'enfant patate, se terminait d'ailleurs par la chute de Boris et la prise de pouvoir par Simone Michel et le groupe de filles qu'elle a formé à l'Institut des Benjamines. Et dans ce tome 4, vous annoncez la sortie d'un tome 5 qui s'appellera justement l'Institut des Benjamines.
Oui, voilà, exactement. Je peux peut-être un petit peu résumer les premiers. En fait, enfin, le premier livre, donc, qui s'appelle La Geste d'Aglaé, raconte en fait le règne de cette reine, Aglaé. Le livre, le troisième, Boris, raconte le règne de Boris. Et ces livres en noir et blanc, en fait, racontent comment le pouvoir passe de main en main au pays Marilène. Et donc, le prochain, l'Institut des Benjamines, racontera le règne de Simone, donc, qui prend la suite de Boris. Et le but, un peu, c'est de raconter comment, en fait, à chaque fois, le pouvoir est pris par une personne. Et, en général, ça lui monte à la tête et ben, voilà, ça entraîne toute une ribambelle de catastrophes. Et à la fin, à chaque fois, le gouverneur est déchu et on passe à autre chose. En fait.
Et c'est d'ailleurs toujours un régicide ou une régicide qui prend le pouvoir, puisque c'est Aglaé qui avait tué Van Krantz, et c'est Simone Michel, et c'est Benjamin qui tue Boris.
Oui, mais alors Boris n'a pas tué Aglaé, par contre. Il l'a rendu complètement amorphe.
C'était sa mère.
C'est sa mère, ouais. Mais il l'a épargné. Mais après, je me laisse toujours des possibilités. Par exemple, est-ce que Boris est vraiment mort? Il a été enterré vivant. Mais voilà, il peut toujours éventuellement revenir, on ne sait pas.
On le comprend, c'est un projet un peu protéiforme. Il y a quatre livres qui sont à la fois chronologiques pour certains, vous l'avez dit, puis d'autres s'insèrent un peu dans les interstices, ou c'est ce qu'on appelle dans les séries des spin-offs ou des, je ne sais pas exactement.
J'ai pas trouvé de terme idéal. Sinon, on peut dire chapitre, par exemple, Sixtite Impératrice, le deuxième est un chapitre d'Aglaé. Bon.
Voilà, Sixtite Impératrice, le tome 2 raconte une guerre, la guerre du pays Marilène contre la Tchétchénie. Mais alors, une des choses qui frappe quand on ouvre vos livres, d'ailleurs publiés donc par les éditions Misma, qui sont de très beaux livres avec des couvertures à rabat, c'est qu'on peut lire dans chacun que certains de ces chapitres ont déjà été publiés, soit par les éditions Misma dans la revue Dopu Tuto, mais aussi pour certains dans la revue Lapin de l'association, et même pour certains dans une revue allemande qui s'appelle Strapazin, et que certains personnages qu'on voit dans ces aventures du pays Marilène apparaissent déjà dans un livre Perséphone aux Enfers que vous avez publié aux éditions Michel Lagarde en 2006.
Oui, ça date, hein. Je me traîne ces personnages depuis de longues années et j'y suis attachée. Effectivement, Perséphone, c'était mon diplôme de fin d'études en fait aux Arts Déco. Et déjà, effectivement, Simone, Aglaé apparaissent comme ça en personnages secondaires. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, quand on a commencé, il y a plus d'une dizaine d'années avec Misma, il y avait une revue qui était plutôt un fanzine à l'époque, qui s'appelait Dopu Tuto, où j'ai commencé à publier des histoires courtes avec une galerie de personnages que je m'amusais à faire vivre. Et petit à petit, j'ai eu l'envie de consacrer vraiment des livres plus conséquents à chacun. Donc et j'avais beaucoup de petites histoires à droite à gauche et au bout d'un moment, j'avais envie que ça fasse un ensemble plus cohérent. Mais là maintenant, j'ai plus de matière prépubliée, donc tous les prochains seront inédits.
Mais toute cette matière prépubliée, toutes ces petites histoires de quelquefois 4 pages, quelquefois plus, qui constituent des chapitres de certains de ces livres, ils s'insèrent donc dans une espèce d'architecture globale qui est très bien construite, très bien charpentée. Est-ce que c'est ce pays Marilène, c'est quelque chose qui est dans votre tête depuis le début? L'articulation, la chronologie, les liens entre les uns et les autres, parce que dans chaque livre, on découvre des choses nouvelles, on découvre qu'en fait, auparavant, un tel a vécu comme ci ou comme ça. Ça s'agence bien? C'était déjà agencé dans votre tête avant?
Non, pas du tout, en fait. Moi, je travaillais beaucoup en improvisation. Et ça a été justement un peu... c'est un peu l'écueil à chaque fois que je me replonge dans un livre pour le commencer. C'est que j'avais plein de petits bouts qu'il fallait assembler et il fallait leur donner une cohérence. Donc, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Et c'est ce qu'il y avait aussi de plus amusant parce que je donnais des petits indices dans des histoires courtes. Et je me disais, ah ben tiens, comment cet indice-là et cet autre indice... vont pouvoir être mis en lien, en fait. Mais au début, maintenant, ça commence à être de plus en plus construit, mais au départ, ça n'était vraiment pas du tout. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, comme je travaillais beaucoup en improvisation, je partais parfois vraiment dans plein de chemins et j'essaye de trouver toujours un fil conducteur, par exemple la couronne qui va passer à chaque fois de roi ou en roi. Enfin, en fait, les contraintes me permettent d'avoir des libertés. Bizarrement, j'ai plein d'éléments que je note dans des carnets et après j'essaye de faire un plan plus abouti, de donner des titres à des chapitres. Enfin, tout ça se fait. C'est un peu une espèce de recette personnelle, mais qui au début c'est vraiment un gros bazar, quoi.
Et est-ce qu'il y a certains de ces chapitres ou certaines de ces petites aventures prépubliées que vous avez dû abandonner parce qu'elles ne rentraient pas dans... dans l'architecture globale.
Oui, par exemple, j'ai le Gousset Gigaud, je l'avais sorti. J'avais sorti un court petit livre, peut-être d'une quarantaine de pages de Gousset Gigaud en 2006, il me semble. Et là, je l'ai pas repris parce que c'était vraiment trop vieux, trop obsolète. Mais en général, j'essaye quand même de garder
d'être fidèle
à ce que j'avais fait. Ouais.
Alors, vous l'avez dit, ça fait bientôt 15 ans que vous vivez avec certains de ces personnages, et les livres du pays Marilène, le premier, La geste d'Aglaé, était paru en 2012 en tant que livre chez Misma.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que ça a commencé, Van Krantz, donc c'est une sorte de Kadhafi, vous venez de le dire. Les autres personnages, Aglaé, Boris, et puis ce pays en général, cette histoire, comment est-ce qu'elle est née?
Alors, comment ça a commencé? Alors, je sais que c'est... il y a très très longtemps, quand j'étais encore étudiante, pour éviter les angoisses de la page blanche, on va dire, j'essayais de me donner des petites contraintes un peu oubapiennes, en fait, pour m'aider à créer des histoires.
L'oubapo, donc l'ouvroir de la bande dessinée potentielle, oui. On en a déjà parlé.
La
bande dessinée sous contrainte.
Comme Loulipo l'était pour la littérature. Et par exemple, j'ai un vague souvenir, faut que je retrouve vraiment mes carnets de l'époque, mais j'avais pris des romans. Alors je sais que j'avais pris une pièce de théâtre de Paul Claudel et un autre roman dont j'ai plus le nom, mais je sais qu'il y avait un personnage qui s'appelait Aglaé et un autre qui s'appelait Van Krantz. Et je prenais des phrases d'un livre et celles de l'autre et je les mettais les unes à la suite des autres. Voilà, je les mélangeais en fait, ce qui me permettait d'avoir une autre histoire. Et ça, je l'avais mis en image. Et c'est comme ça, par exemple, que Aglaé est arrivé et que Van Krantz est arrivé lui aussi, parce que je retrouve vraiment les extrêmes, et ça parlait d'une femme qui était sans doute manipulée par un homme. Donc voilà, ça, je sais que c'était venu comme ça, mais c'était vraiment des petits dessins, des petits extraits que je gardais dans des fonds de carnet. Les autres après je m'inspire de ce qui m'entoure en fait, donc c'est venu assez naturellement de notre société en fait. Derrière la fiction, tout ce peuple imaginaire ressemble vraiment à nous en tant qu'être humain, quoi.
Et alors, une des choses, moi, qui m'avait intrigué quand j'avais lu La geste d'Aglaé quand c'est sorti en 2012, c'est que vous révélez dès le tout début que certains des personnages viennent d'une chanson. On l'écoute.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Fanke's fair, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz.
For the benefit of Mr. Kite, vous aurez bien sûr reconnu les Beatles sur une chanson extraite de l'album Sgt. Pepper de 1967. Qu'est-ce que les Beatles viennent faire là-dedans, Anne Simon?
Alors, les Beatles, ils me suivent depuis tellement longtemps, c'est vraiment... Je les adore. Et en particulier l'album Sgt. Pepper, qui m'a vraiment marqué quand j'étais adolescente, toute jeune adolescente. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que, comme tout enfant, j'adore qu'on me raconte des histoires, et il y avait les Beatles et ils font un album qui raconte une autre histoire. Ils inventent tout un monde en fait, c'était tellement extraordinaire que j'ai repris en fait des personnages de leurs chansons.
Mais quelle drôle de chanson quand même. Donc c'est l'histoire du cirque Kite. Donc il y a Mr. Kite qui est le monsieur loyal du cirque, et puis Henry the Horse, Henry le cheval qui danse la valse, les Anderson sur leur trampoline.
Oui. Ça, je les ai imaginés, du coup.
Alors, mais... Vous les avez dessinés, oui. Mais alors, Comment est-ce que vous l'avez comprise, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle vous raconte comme histoire? Parce qu'elle décrit quelque chose. Alors, c'est tout l'album, Sgt. Pepper, qui est un concept album, qui raconte quelque chose.
Mais... Oui, parce qu'il y a aussi Love Lyrica que je mets aussi dans la bande dessinée. John Lennon s'était inspiré pour cette chanson d'une véritable affiche de cirque, en fait, où c'était, bon, donc, For the Benefit of Mr. Kite. Et en plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Lennon aimait pas beaucoup cette chanson, en fait. Moi, je l'adore, hein, mais.
Qui est signé McCartney, enfin, qui est signé oui, des bon, deux,
après,
comme toutes.
Oui, pour ça, il y a le vieux problème où tout est signé Lennon-McCartney, mais c'est une chanson de Lennon, quand même, à la base. Et je trouve qu'il y a justement une mélancolie, en fait, dans cette chanson. Enfin, moi, déjà, le cirque, ça m'a toujours donné le mouron, quoi. J'y suis allée une fois quand j'étais petite et j'ai été traumatisée, je crois. J'avais trouvé ça vraiment hyper, hyper triste. En plus, il y avait des animaux et je trouvais qu'ils, enfin, déjà à l'époque, je crois que je me comprenais qu'ils étaient exploités. Enfin, vraiment, quand j'ai créé mes histoires, je trouvais que l'ambiance de ce cirque, de cirque, en fait, pouvait convenir complètement, pour créer un monde qui paraît un peu fantastique au départ et un peu rigolo, mais qui l'est pas forcément, quoi.
Cet album, Sgt. Pepper, il est aussi connu, bien sûr, pour sa pochette, qui montre toute une galerie de personnages sans lesquels les Beatles n'auraient pas été les Beatles. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont expliqué. Donc, ça va d'Edgar Allan Poe à Bob Dylan, en passant par Lewis Carroll, Gandhi, Aldous Huxley, Marilyn Monroe et plein d'autres. Chez vous aussi, on sent que, en lisant vos livres, il y a des influences donc qui viennent d'un peu partout. C'est un mélange de plein de choses que vous avez lues, entendues. Qu'est-ce que vous citeriez comme influence? Donc il y a les Beatles, mais oui, comme influence prépondérante pour ce monde, ce pays Marilyn et cette œuvre que vous êtes en train d'élaborer.
Alors je peux déjà peut-être parler des influences en bande dessinée, par exemple. Ce qui a pu m'inspirer aussi graphiquement, par exemple Fred. Encore une fois, quand j'étais enfant, j'ai lu, parce que pour moi, faire de la bande dessinée, parfois, ça ressemble un peu à quand on était jeune et petit, qu'on jouait avec des Playmobil ou des poupées. C'est que je prends tous ces personnages et je les fais vivre. Et par exemple, donc, quand j'étais enfant, on est forcément influencé par notre enfance. J'avais lu Le Petit Cirque de Fred, qui est un livre vraiment magnifique, je trouve. Et donc, vous voyez un petit peu, il y a une calèche, en fait, qui est ouverte à un moment donné, et on rentre dans ce qui est toute petite, en fait, à l'extérieur, et on rentre à l'intérieur. C'est somptueux, c'est une grande, grande chambre, avec beaucoup de dorures. Enfin, c'est très riche, et on peut tout se permettre, en fait, grâce au dessin et à la bande dessinée. Et je savais pas à l'époque que j'allais devenir autrice, je me rendais compte qu'il y avait plein de possibilités grâce au dessin et la bande dessinée en particulier. Donc, je peux citer Fred, Brett Eschet m'a beaucoup influencé, Gottlieb, toute cette génération. Et ensuite j'ai découvert aussi Julie Doucet beaucoup plus tard, dans les années 2000, qui m'a, ses mises en page graphiques, vraiment, je trouvais ça exceptionnel, vraiment ce qu'elle, et puis toute la bande dessinée des années 90 avec l'association Cornelius, toutes ces maisons d'édition. Moi, c'était vraiment quand je commençais, quand j'étais au Beaux-Arts d'Angoulême à cette époque-là, les auteurs comme Sfar, par exemple, on nous ont quand même permis de se dire qu'on n'était pas obligé de faire de la BD classique avec un joli crayonné, qu'on pouvait exploser un peu la page. Et voilà, donc ça, c'est, je pense que c'est ce qui m'a influencé aussi. Et après, en littérature, c'est justement les Rougon-Macquart, Zola. Parfois, je dis que Les Contes du Marilyn, c'est un peu ma petite comédie humaine moi.
Disais tout à l'heure.
Oui, après, à mon niveau, quoi, vraiment. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime lire aussi.
Ça ressemble à la comédie humaine, dans le sens que, comme on le disait tout à l'heure, on retrouve quelquefois un personnage qu'on a simplement aperçu sur une case dans un tome précédent. C'est son histoire qu'on va développer. Les gens se recroisent, les gens changent. Enfin, c'est vrai que c'est une comédie humaine.
Voilà, ouais. Puis c'est ce que j'aime lire moi aussi, de voir des personnages avec leurs forces, leurs faiblesses. Tout ça, c'est j'aime bien essayer de les incarner comme ça. Donc les sœurs Brontë aussi, ont vraiment eu beaucoup d'importance. Et puis les frites végétaliennes aussi, par exemple. Donc la publicité. Donc j'ai vraiment
parce
c'est
y a
très éclectique tout ça.
Une armée de frites, l'armée Marilyn, qui est à la solde de Van Krantz au début. Ce sont les frites de la pub végétaline qu'on a entendu en tout début d'émission.
Ça, je ne sais pas trop comment c'est venu. C'est, tout simplement parce que j'adore les frites, quoi. Ça va pas très loin. Mais...
Et est-ce qu'il y a un goût de la tragédie antique ou de la tragédie antique reprise au XVIIe? Parce que dans ces histoires, il y a d'abord une violence qui est très présente. Ce ne sont pas des histoires tendre. Il y a des régicides, des femmes qui tuent leur mari, des hommes castrés, des enfants qui martyrisent leur mère. Et on sent quelque chose aussi, une dimension. Puis certains personnages qui semblent jouer un peu le rôle du cœur antique, quelquefois. Enfin, j'ai compris ça comme ça. Est-ce que cette tragédie, ça, c'est quelque chose qui compte pour vous?
Ah oui, ça compte vraiment. Puis bon, déjà, la mythologie grecque et romaine qui, justement, En fait, on a tout dans la mythologie déjà. On peut l'avoir aussi un peu dans la Bible, hein, mais moi, j'ai plus été inspirée par la mythologie grecque. J'aime les tragédies et voilà. Enfin, donc forcément, ça se répercute dans mon travail. J'aime les tableaux aussi de la Renaissance. Voilà. Enfin, on peut passer des heures à regarder, ou même du Jérôme Bosch ou des tableaux comme ça. C'est il y a toujours plein de petits détails, il y a de la minutie, et voilà, c'est ce que j'aime aussi faire, prendre un petit détail et le développer après par la suite. Et puis après, il y a tous les grands drames qui ont toujours été vécus. On parlait de la situation des femmes. Moi, je suis une femme, donc forcément, je m'intéresse à ça. Quand je lis des choses, par exemple, je sais pas, quand j'ai lu Antigone, forcément, on se reconnaît. Il y a des choses qui m'ont interpellée. Mais ça, c'est venu très naturellement après dans mon travail, parce que voilà, c'est des choses qui m'ont fait me questionner, quoi.
Alors, il y a quelques années, pendant que vous continuiez ces aventures du pays Marilène, vous avez aussi publié chez Dargo, avec une scénariste, Corinne Mayer, des biographies dessinées. Vous avez publié une biographie de Einstein, mais aussi une de Marx et une de Freud. Alors, c'est pour Einstein pas trop, mais Marx et Freud, est-ce que pour ces deux personnages et ces deux penseurs, le fait de vous plonger un peu dans leurs œuvres, dans leur vie, ça a changé aussi votre façon d'écrire ces histoires, puisqu'il y a une dimension, je disais, tout à fait politique, de qu'est-ce que c'est que l'exercice du pouvoir, une critique du capitalisme dans Boris l'enfant patate. Et puis, pour le côté Freud, comme je disais, entre les castrations, les régicides ou les parricides, etc., il y a de la psychanalyse là-dedans.
Alors, j'avais écrit quand même une partie de Boris avant, donc c'était pas, je pense pas que j'ai été forcément influencée. Peut-être que dessiner Marx, les livres sur Marx et Freud, ça m'a permis par contre au niveau du dessin d'aller plus loin, et parce que dans le pays Marilène, je dessine que des choses que je sais faire vu que c'est mon univers, donc ça m'a permis de progresser, en fait, on va dire. Les critiques du capitalisme, parler de féminisme, ça c'est des choses que j'ai toujours voulu. Après, par contre, c'est vrai que je me suis beaucoup amusée à dessiner le livre sur Freud, parce que bon, avec l'inconscient et tout ça, on peut se permettre beaucoup de choses, donc des grandes images oniriques et tout. Donc voilà, je pense que ils sont complémentaires, en fait, mais je pense pas que ça m'ait forcément beaucoup influencé. Pour la castration, par exemple, pour Sixtite impératrice, c'était plutôt c'est inspiré de Sixi, en fait, une impératrice chinoise. J'avais visité la cité interdite il y a très longtemps, et après j'avais lu des livres sur des mémoires d'esclaves eunuques, en fait, qui avaient été esclaves à la cité interdite. Et pour la première fois, je me suis dit, ah mince, parfois les hommes souffrent aussi, enfin les hommes, les mâles. Et parce qu'en fait, Sixi était vraiment très très, c'était une impératrice vraiment très cruelle qui castrait les hommes pour donc en faire des esclaves. Mais c'était vraiment fait, c'était horrible, en fait. Après, ils avaient encore des pulsions sexuelles, mais ils pouvaient pas les assouvir. Enfin, c'est vraiment, quand on lit leurs témoignages, c'est vraiment assez trash. Et donc c'est pour ça, par contre, que j'avais voulu parler de castration aussi dans Sixtite.
Donc on le dit,
castration masculine.
Un ensemble, enfin les histoires du pays Marilène sont des histoires qui sont aussi violentes. Dans ce quatrième volume, Gousse et Gigot, l'histoire de ces deux sœurs qui sont victimes presque depuis leur conception, jusqu'à quel que soit le souverain du pays Marilène, elles sont rejetées, elles sont maltraitées. Donc à la fin de ce tome, elles s'enfuient. C'est un tome que j'ai trouvé beaucoup plus à la fois tendre et à la fois déchirant. C'est vraiment une tragédie, pas une tragédie grecque, mais une tragédie qui ressemble plus à Zola ou à choses comme ça. On est plein de pitié pour ces personnages. C'est des personnages que vous aimez, elles aussi, Gousse et Gigot?
Oui, je les aime beaucoup. Et par exemple, Gousse, la plus grande, la plus grande en taille des deux, devient alcoolique. Et là, par contre, c'est clairement inspiré par l'Assommoir de Zola, justement. Ces deux personnages, je les ai donc créés il y a très très longtemps, et quelques années plus tard, en fait, j'ai découvert inconsciemment d'où elle venait. Je crois que c'est inspiré par Fantomette, en fait. Dans Fantomette, je sais pas si vous voyez, il y a deux personnages secondaires qui s'appellent Ficelle et c'est Ficelle et Boulotte.
Je les ai pas lus, je connais.
Mais alors c'est, mais c'est vraiment c'est génial Fantomette, moi j'adorais. Mais c'est vraiment le parce que le, c'est vraiment les personnages de bande dessinée classique, un gros ouais. petit et un grand élancé. Enfin c'est Laurel et Hardy.
Ouais.
Bon Astérix Obélix, même si Astérix c'est un petit un grand gros quoi, mais en fait c'est vrai que bah, c'est deux personnages un petit peu qui se ressemblent pas permettent déjà de au niveau narratif de trouver plein d'histoires et c'est vrai que depuis le début par contre pour revenir un petit peu à Fantomette Ficelle et Boulotte, c'était deux personnages qui vivaient sans leurs parents et vivaient toutes seules en fait alors qu'elles étaient petites. Et moi, quand j'ai lu ça, je trouvais ça incroyable en fait. Elles avaient mon âge, enfin peut-être 10 ans, et elles vivaient toutes seules, pas besoin d'adultes, pas besoin de parents. Elles étaient livrées à elles-mêmes et elles se débrouillaient en fait. Donc je crois que ça m'avait marqué. Et Goose et Gigot, c'est un peu ça en fait. Elles ont aucune attache. Même Claude, qui est un personnage qui les aide, à un moment, on se demande s'il a pas été intéressé un petit peu quelque part parce que on comprend qu'il a des vues sur Goose.
Quelqu'un qui dit qu'il les a violés.
Oui, voilà. Ouais. Alors c'est Simone qui le dit. Alors comme ouais. elle déteste tous les hommes, et ce qu'elle dit. Mais je pense qu'on peut. Moi, je laisse le lecteur choisir. Mais effectivement, il les aide, mais c'est jamais gratuitement en fait. Voilà. Donc et c'est vrai qu'elles ont. Elles pendant tout le livre, on suit leur parcours et elles ne peuvent compter que l'une sur l'autre, mais pas sur personne d'autre en fait.
Et donc à la fin de ce livre, Goose et Gigot s'en vont avec les cuillères Rita, Lovely Rita. Elles s'en vont vers l'île des Doukdouk, et donc on les retrouvera dans un tome 6 peut-être, si je comprends bien, le tome 5 ce sera le règne de Simone Michel.
Oui.
Et le tome 6 peut-être la suite des aventures.
Alors,
de Goose et Gigot.
Au pays des Doukdouk, je pense que je vais peut-être en faire un autre entre-temps sur les relations entre James Kite, qui était le directeur du cirque, et son cheval Henri, voilà, qui sera en couleur lui, et ensuite la suite ça sera au pays des Doukdouk, et sur les, voilà, qu'est-ce qui va se passer sur cette île qui peut rappeler Lampedusa par exemple, donc on ne sait pas, peut-être qu'il va encore.
Et ben, on est très impatients en tout cas de découvrir la suite de toutes ces aventures du pays Marilène, qui est vraiment c'est pas une galaxie, un continent littéraire et graphique qui est absolument délicieux, formidable à découvrir. Merci beaucoup Anne-Simon.
Mais merci.
Et alors, on n'a pas parlé de votre maison d'édition Misma, dont vous êtes un des piliers, mais ce sera pour une prochaine fois.
Ah,
on recevra peut-être Eldon Guillermo et Stock Affiche.
Ah, oui, ils sont très très importants pour moi. C'est mes deux éditeurs.
Les fondateurs. Mais on peut aussi voir une chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube des éditions Misma, il y a un petit clip de Goose et Gigot avec une musique signée Prosperi Burri. C'est avec cette musique que nous nous quittons. C'est quelqu'un de l'écurie Misma, Prosperi Burri.
Oui, complètement. On le connaît très bien. Et qui est auteur de bande dessinée aussi.
Encore un tout petit mot pour signaler à nos auditeurs la sortie aux éditions PLG du deuxième tome de La Grande Aventure de la Bande Dessinée de Christian Stabler. Christian Stabler avait essuyé les plâtres du rayon BD à la rentrée dernière pour notre première émission sur Goscinny. De Goscinny, il en est question dans ce second tome puisqu'il s'intitule Le tournant des années 60 et 70, un livre comme le premier, très clair, très pédagogique. Le troisième et dernier tome est en préparation aux éditions PLG, La Grande Aventure de la Bande Dessinée, donc à retrouver en librairie. Comme chaque semaine, le Rayon BD était préparé par Pascaline Bonnet, Alexandre Manzanares était à la réalisation et Anthony Thomasson à la technique.